Je voulais juste vous dire combien je suis triste et combien je suis en colère parce que Yasser Arafat va être enterré aujourd'hui et je viens d'apprendre que qu'aucun chef d'État européen va aller se recueillir sur sa tombe. Et je me dis encore une fois, on va laisser les Palestiniens entre eux, on va leur montrer quelque part qu'on a peur de prendre vraiment une position claire et nette devant Israël. On ne veut pas s'afficher finalement. On dit toujours, quand je dis on, c'est-à-dire les puissances européennes, malheureusement, n'arrivent pas à faire la part des choses, n'arrivent pas à se positionner ouvertement. C'est-à-dire, je ne veux pas que évidemment, ce soit contre Israël, mais juste une fois encore, dire on comprend la douleur des Palestiniens et on veut être à leur côté, même physiquement. Je comprends pas qu'on envoie un premier ministre. J'entends par-ci par-là que c'est un représentant ou un troisième personne du gouvernement qui va représenter tel ou tel chef d'État, comme si on avait honte encore une fois de d'être là. Parce qu'on a peur du regard d'Israël, peut-être. On a peur du regard de Sharon. On a peur des représailles, peut-être. Finalement, c'est dans cette histoire, c'est qui est le plus fort. C'est toujours Israël. Hein. Je suis triste. Je trouve ça très lâche. Encore une fois, on va passer à côté d'une chose. Et je pense que la France aurait pu envoyer au moins le Premier ministre. Oui, c'était la moindre des choses. Il fallait être là pour la douleur des Palestiniens. Je suis en colère. Je suis très, 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 très triste.
Jérusalem, An de Grâce 2029, 11 novembre, Dôme du Rocher. Discours de Leïla Chaïd. Entre ici, Yasser Arafat, avec ton funèbre cortège. La fiction à l'état brut. Pour en sortir, il faudrait léophériser les esprits. Mousses Zayn est Mousses Zayn. Cela doit-il être, cela est. Shakespeare aussi était un terroriste. Words, 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 disait-il. Monsieur 82%, l'ami autoproclamé de Yasser Arafat ne se déplace pas pour ses funérailles. Une amitié indéfectible, on le voit. Pour ma part, je vois que Yasser Arafat est mort le 11 novembre, le jour de l'armistice. Cela devrait donner un autre écho de cet homme qui a passé sa vie à être une cible. Qu'il repose en paix. Gérard Mons-en-Barœul.
Eh bien moi, je ne suis pas palestinien. Même pas arabe ou d'origine arabe, je ne suis pas non plus musulman. Et pourtant, j'étais un de ces rares Français, hier soir, à regarder partir l'avion qui ramenait le président Arafat vers sa terre de Palestine. Et comme les gens autour de moi, je n'ai pas pu faire autrement que d'être très ému, parce que je sais ce que représente Arafat pour tout un peuple qui vit dans les conditions que l'on connaît. Cet hommage, je tenais à le faire, ne serait-ce que pour laver la honte de ces quelques députés de l'UMP indignes qui ont crié au scandale parce que la France accueillait le président palestinien. Je sais que je ne me serais pas couché à conscience tranquille si j'avais pas fait ce geste. Vous allez me dire, c'est une satisfaction bien misérable, mais j'ai pas le pouvoir de faire plus, hélas. Voilà. C'est Daniel de Villecresne dans le Val-de-Marne.
L'inhumation définitive de Yasser Arafat sera sur l'esplanade des mosquées. Là où l'ancien leader défunt voulait être enterré dans ce lieu si symbolique.
Le nom grandit quand l'homme tombe, disait Victor Hugo. Et émotion partout dans le monde, évidemment, à Ramallah, partout, et aussi sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, des échos, des émotions, des petits éditoriaux, comme ça, sur le répondeur, dont je rappelle le numéro, 01 56 40 37 37. Alors, les uns se bercent de l'espoir de vous que la fin d'Arafat serait une opportunité de rouvrir les négociations, espérons qu'ils ont raison. D'autres plaignent Sharon, ses faucons, ses colons et son W qui vont devoir invoquer un autre obstacle aux négociations et à la création d'un État palestinien aux côtés de l'État juif. C'est les éléments qui sont les plus présents aujourd'hui. Nous, on va revenir en arrière, revenir à l'origine de ça. Pourquoi ces passions? Pourquoi ces coups de feu? Pourquoi ces tensions? Pourquoi ces haines? On va aller simplement dans la maison de l'oncle Mahmoud, quelque part en Israël. Et dans cette maison, eh bien, il n'y a personne, pour la raison que cette maison n'existe pas. Une maison fantôme qu'un homme vient voir, elle n'existe plus, vient voir avec une clé. La clé que les Palestiniens se transmettent depuis 1948. Une simple et claire et lente promenade avec l'oncle Mahmoud à l'origine de cette histoire. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37, notamment des réactions suite à l'émission d'hier sur le général Mangin.
C'est formidable ce que vous dites. On a toujours caché cette histoire-là. Et à la guerre de 40, hein, c'est pareil, on a envoyé les Noirs et les Américains aussi. Il faut lire Chomsky quand il décrit ce que faisait l'armée américaine avec les Noirs, hein. Il les mettait quand même à part. Et quand même, les Blancs, ben, on a été colonisés quand même le monde, hein, et encore maintenant, pour prendre leur pétrole, pour prendre leur richesse, et on les traite mal. C'est pas beau, ça. Au revoir.
Et ça y est, il y a Daniel Mermet qui est encore reparti avec son anticolonialisme bêlant. Réfléchissez un petit peu 30 secondes, monsieur Mermet. S'il n'avait pas été là, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils furent recrutés, peut-être que votre émission, vous la feriez encore en allemand.
Bonjour, Yannick de Sainte, j'ai écouté l'émission du 11 novembre et ça me rappelle un souvenir. Ma grand-mère, quand j'étais petite, me racontait que elle avait été réveillée une nuit par du bruit bizarre et elle avait été voir la fenêtre et défilait sous la rue, enfin défilait, passait dans la rue en pleine nuit une troupe de tirailleurs sénégalais, et le bruit, c'était le pas des pieds nus sur la route. Ils ne supportaient pas leurs chaussures, donc ils marchaient pieds nus. Au revoir.
Daniel Mermet, bonjour. L'homme d'âge que je suis voudrait apporter son témoignage à propos du général Mangin. Mon père, qui avait combattu à Verdun, n'avait pas de mots trop durs pour qualifier ce personnage. La phrase qui revenait alors dans sa bouche, c'était « Ce qu'il en a fait massacrer de pauvres gars, celui-là ». Je voudrais aussi rappeler le sort réservé par les troupes allemandes le 19 juin 40 au bataillon de tirailleurs sénégalais qui, au milieu de la débâcle générale, s'était regroupé à Chasselet, à 15 kilomètres au nord de Lyon. Les nazis ne faisaient pas de prisonniers nègres puisque c'était des sous-hommes. Plus d'une centaine d'entre eux furent ainsi massacrés sur place. Ayons une pensée pour eux. Merci, c'était Jean de Grenoble.
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Jean-Yves Demillot, où se déroule actuellement le premier forum social local. Ce soir 11 novembre, nous nous sommes rassemblés sur la place Foch, que nous avons rebaptisée place de l'insoumission. Ensuite, nous avons assisté à une très belle lecture de textes, très émouvante, par des comédiens et des gens du public sur les guerres, depuis la grande boucherie de 14-18 jusqu'au conflit actuel, en particulier la Tchétchénie, un peu oubliée, voire méprisée par nos politiques en particulier. Et ensemble, nous avons chanté La Butte Rouge, Craon et Le Temps des Cerises. Le forum social continue, vendredi 12, samedi 13, avec en particulier une conférence débat animée par Yves Salès sur la Constitution européenne. Voilà, c'était Amillot, c'était Jean-Yves. Au revoir.
Salut Daniel, c'est David de la Creuse où en ce 11 novembre on ne peut pas manquer d'évoquer la petite commune de Gensioux sur le plateau de Millevaches. célèbre ici pour son monument aux morts où un petit garçon en bronze tend le poing et accompagne la sentence marquée dans le marbre « Maudite soit la guerre ».« Maudite soit la guerre », c'était le thème du 17e rassemblement du 11 novembre à Gensoux. C'est aussi un petit coin de la République où, comme ailleurs, l'État libéral se désinvestit de notre avenir. Tant et si bien que le 23 octobre dernier, ce sont plus de 260 élus, conseillères et conseillers municipaux, maires, conseillers généraux qui ont remis leur démission aux représentants de l'État, le préfet qui a affiché un royal mépris en les traitant d'archaïques. J'appelle pour informer les auditeurs et auditrices, citoyens et citoyennes, qu'à l'appel du collectif Creusois de défense et développement des services publics, initié par Attaque Creuse, nous invitons les citoyens à venir manifester nombreux samedi 13 novembre 2004 à 10h devant la mairie de Guéret. Nous y tiendrons à l'issue de la manifestation une assemblée générale et lancerons un appel à la résistance à toute la France. Voilà, salut.
Acuerdo general sobre comercialización. Comercialización de servicios.
No necesitamos pedir permiso para ser libres.
Bah oui. Silence. Vous avez entendu ces petits sons là à toute vitesse? C'est très bruyant, c'est très beau, mais après? Après, comment faire, après ce petit vacarme, comment faire pour décrire la GCS? C'est-à-dire l'accord général sur le commerce des services. Comment vous faites pour, quand vous faites de la radio, quand vous êtes journaliste, quand vous faites des reportages écrits ou en images, comment vous pouvez décrire l'accord général sur le commerce des services? Quelle histoire raconter, quels exemples concrets trouver dans la vie pour faire toucher du doigt cet énorme rouleau compresseur qui avance, mais silencieusement, mais sans images, mais sans visage, sans histoire, au sens de ces histoires qui sont nécessaires aux médias, paraît-il, pour faire comprendre quelque chose. Comment décrire l'irrésistible avancée du gros méchant accord général sur le commerce des services en train de détruire les gentilles collectivités publiques? Eh ben, c'est pas facile du tout, et c'est cette difficulté, cette quasi-impossibilité qui rend la GCS aussi dangereux et aussi efficace. Voilà pourquoi se tient ce week-end, samedi 13 novembre et dimanche 14, samedi à dimanche prochain, c'est-à-dire demain et après-demain, à Bobigny, dans la Seine-Saint-Denis, les états généraux des collectivités publiques contre la GCS qui, selon les animateurs de cette rencontre, nous menace la démocratie, pas moins, menace la maîtrise publique, les collectivités publiques, menacent les services publics. C'est pas une affaire, bien sûr, de gauche ou de droite, c'est une autre question extrêmement grave et qui illustre parfaitement, alors, pour le coup, l'idée qu'aujourd'hui, le bruit des pantoufles est bien plus menaçant que le bruit des bottes. Voilà pourquoi, en prévision de ce week-end et de ces états généraux et des collectivités publiques contre la GCS, Guy Vanctil est allé voir Suzanne George. Suzanne George est une des animatrices les plus déterminées contre la GCS.
Ah la 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 la.
Suzanne George, on vous retrouve, bonjour. Pour parler d'un de ces mystérieux acronymes qui peuvent révéler plein de choses et dont on entend vaguement parler. Celui-ci, c'est la GCS,
oui.
Négocié à l'OMC.
Oui.
Alors, juste une petite piqûre de rappel pour savoir de quoi il s'agit.
Absolument. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui gère des tas d'accords commerciaux, que ce soit sur les biens industriels, l'agriculture, la propriété intellectuelle, etc. Et l'un de ces accords s'appelle la GCS, l'accord général sur le commerce des services. Et il s'agit d'un enjeu considérable parce que les services représentent maintenant entre le cinquième et le quart de tous les échanges mondiaux. Il y a des milliards et des milliards de dollars à gagner dans ce domaine. Et cet accord, tel qu'il est géré à l'OMC, est entièrement aiguillé vers le bien des grandes firmes transnationales. Et on essaie surtout d'ouvrir les frontières de tout le monde pour que les services, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'environnement, l'eau, la culture, les sports, les loisirs, y compris les services publics, quels qu'ils soient, puissent être à terme entièrement privatisés. Et c'est une machine qui s'emballe lentement, mais qui va vers cette libéralisation qu'elle souhaite, parce que si on regarde ces marchés, le marché de l'éducation, si on pouvait tout privatiser et si on pouvait rendre ce qui est public, si on pouvait donner ça aux transnationales, mais c'est un marché de 2 trilliards et demi de dollars. Ce sont des chiffres inimaginables. La santé, c'est encore plus. On l'a estimé à 3 trilliards de dollars. Les gens sont abasourdis ici.
Des milliers de milliards de dollars.
Mais des milliers de milliards de dollars. Et mettez 3 avec 12 zéros, vous voyez ce que c'est qu'un trilliard.
Ah la la la.
Le capitalisme n'est pas malade. Ou tout au moins, le capitalisme n'est pas tombé subitement malade. Il a simplement poussé jusqu'à son terme la logique dont il est porteur, à savoir tout transformer sur cette planète en objet de profit, tout transformer en marchandise.
Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège.
Susan Jardoun parlait de cette libéralisation des marchés qui, à terme, signifie privatisation des services publics. Vous nous dites que ce sont des négociations qui ont lieu à l'échelon international, avec plus de 140 pays, que nos politiques y signent un peu vite fait, mais qu'ils n'ont pas vraiment de poids là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui se fait pour essayer de mettre un grain de sable, de faire le grain de sable et d'arrêter cette machine qui avance, bon an, mal an, tranquillement, en ne perdant pas de vue ses objectifs, la libéralisation.
Oui. Notre raisonnement à attaque a été le suivant. On ne peut rien faire, ou très peu de choses, au niveau de l'OMC. On ne peut quasiment rien faire au niveau de la Commission européenne. Alors, le raisonnement est le suivant. Il nous reste l'espace national pour faire quelque chose. Là, on a quand même encore de la démocratie, même si notre gouvernement lui-même privatise, nous pouvons quand même agir sur ce terrain. Alors, nous avons lancé cette campagne contre la GCS avec les conseils municipaux, les conseils généraux, les conseils régionaux, pour leur expliquer ce que c'est que la GCS, pour leur expliquer combien ils seraient complètement privés de leur pouvoir sur leur propre territoire en matière de services publics.
C'est-à-dire informer nos élus locaux.
Et informer les élus et les inciter à voter des déclarations pour se mettre hors AGCS et demander le moratoire sur ces négociations. Il y a maintenant 11 régions, il y a 28 départements, je crois, de très nombreuses villes préfectures et puis des centaines de communes de toute taille. Qu'est-ce que ça veut dire de se déclarer hors AGCS? C'est symbolique, bien sûr. Mais cela veut dire aussi que l'on va réfléchir avec les élus sur, par exemple, comment peut-on reprendre la régie de l'eau si ça avait été donné à une transnationale.
Et souvent, on s'aperçoit que ça coûte moins cher d'avoir l'eau publique que de l'avoir privatisée.
Mais bien sûr, pourquoi voulez-vous payer la pub ? Chaque fois que quelque chose est privatisé, l'usager va payer la pub, il va payer tous les frais de marketing de cette entreprise. Mais ce qui caractérise ces communes, je crois, c'est qu'avec le poids de beaucoup d'élus, de beaucoup de territoires, nous allons faire réfléchir le gouvernement. Toujours est-il que les 13 et 14 novembre...
Demain et après-demain.
Demain et après-demain, exactement, nous allons tenir ce que nous appelons les états généraux de ces collectivités hors AGCS. J'incite les citoyens qui le souhaitent de venir à Bobigny demain pour s'informer. Vous pouvez être élu ou pas élu, membre d'ATTAC ou pas membre d'ATTAC. Tout le monde est invité à la Maison des syndicats à Bobigny pour apprendre davantage sur la GCS et discuter pour renforcer la campagne et pour obliger le gouvernement français à agir, même s'il ne souhaite pas trop le faire. C'est à Bobigny, à la Maison des syndicats.
Un place de la Libération.
Voilà, pour s'informer sur cette affaire, parce que c'est grave pour la collectivité nationale.
OMC.
Vous êtes à nouveau dans le système principal.
Un voyageur qui, après la création de l'État d'Israël en 48, s'est réfugié à Gaza, puis en Égypte, pour faire des études.
Voilà, on quitte les états généraux de la GCS pour revenir en Palestine, pour revenir à Ramallah, sauf qu'on va quitter cette foule passionnée, cette foule qu'on a vue autour du cercueil d'Arafat. On va quitter cet endroit et on va aller à l'origine de ce conflit. À l'origine de ce conflit, dans une douleur fantôme, dans l'absence d'une maison, mais avec la persistance d'une clé. Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis. Palestine, mais dans quel état ?
Flight number 2, arriving from New York.
And for this reason, this is the symbol for the keys. That's our parents, they keep the keys of the houses.
Et c'est ça le symbole très fort, l'image très forte du symbole des clés de nos parents qui gardent les clés des maisons qu'ils n'ont plus.
And my family, my parents, now when they died, they left the keys for me.
Mes parents qui sont morts maintenant m'ont légué les clés qu'ils avaient gardées de la maison.
C'est la terre promise. Ici, on est sur ta terre promise.
My land, it's not a promised land. This is my land.
C'est ma terre, c'est pas la terre promise.
Et la terre se transmet comme la langue. On a pu les dégommer, mais on n'a pas pu les gommer. De qui s'agit-il ? Israéliens ? Palestiniens ? Dressés l'un contre l'autre, frères ennemis irréconciliables, historiquement, naturellement. C'est du moins ainsi qu'on se représente, qu'on nous représente le conflit ici, dans ce monde, notre Occident à nous, l'Occident du génocide. C'est lâchement soulagé de sa mauvaise conscience, en dressant l'un contre l'autre, en construisant l'image de deux camps, deux bords, deux fanatismes israéliens et palestiniens. Lâche soulagement pour faire oublier pogrom, russe, affaire Dreyfus, française et Shoah. Vous ne pouvez pas ignorer ce qui est arrivé aux Juifs en Europe. Combien de fois a-t-on posé la question à un Palestinien ? Et combien de fois a-t-il répondu « Nous ne l'ignorons pas, mais nous n'y sommes pour rien ». On oublie ces choses simples en regardant, en suivant chaque épisode, chaque péripétie de cette longue histoire du conflit israélo-palestinien. Mais ce qui nous a frappé le plus sans doute dans notre voyage, c'est la détermination palestinienne, c'est l'entêtement palestinien. Et on va en avoir une preuve à nouveau aujourd'hui avec Ziad et son oncle Mahmoud, avec ces deux vers du magnifique poète palestinien Mahmoud Darwish qui dit « Et la terre se transmet comme une langue ».
I'm not afraid to die.
Alors là, on vient d'arriver à l'entrée du village, on a suivi ce chemin de terre, et donc le Mahmoud s'est arrêté, il nous a dit on va continuer, mais d'abord je veux m'absenter quelques instants. Il est monté là entre les pierres et les arbres, et il est allé prier. Parce que tout ce paysage, toutes ces terres, c'était la terre de votre famille, c'était ses terres à lui.
Tous les habitants de ce village étaient des relatifs. On dit.
Ah, étaient de la même famille, c'était une tribu. Est-ce qu'il y avait des familles juives autour, ou dans le village, ou avec eux?
لا اللي كانوا عايشين هون كانوا من زمان عايشين هون اللي هم كان نسبتهم تقريبا 3.5% من مجموع السكان الفلسطينيين قبل عام 48 قبل الهجرة اليهودية يعني.
Les juifs qui vivaient dans à côté c'était des gens qui étaient là depuis très longtemps qui faisaient partie des 3% demi des juifs qui étaient dans cette région là.
En fait, ce qu'on oublie toujours, c'est que en Palestine, dans cet espace de la Palestine sous contrôle ottoman et puis sous mandat britannique, il y avait bel et bien depuis des siècles des juifs qui vivaient, qui étaient là.
C'est l'oncle qui fait un signe pour qu'on y aille. C'est là-haut de la colline.
C'est l'oncle qui est là-haut. Alors voilà, on est parti de Bethléem avec Ziad. Ziad, il a quoi? Il a une quarantaine. Et son oncle, Mahmoud, qui a 65 peut-être. Et on va dans les pierres, on va dans rien, on va dans une mémoire, on va dans un souvenir, on va dans cette terre qui, dit Mahmoud Darwish, se transmet comme la langue. Et vraiment, il y a des moments où les vers d'un poète correspondent tout à fait à ce que nous sommes en train de vivre.
Il est où le village?
C'est juste là-bas.
Où là-bas?
Juste devant nous, à 10 mètres devant nous, il n'y avait que deux maisons. Là, on voit que quelques arbres. Donc à côté de ça, cet arbre-là, hein, c'était ma maison.
Ah, mais il n'y a rien du tout là. Tout a été rasé.
Il n'y a même plus de fondation.
Mais c'est fou parce qu'on est dans un... On est sur une colline. C'est que des pierres. Si on connaît, si on ne sait pas qu'il y a eu un village ici, on ne comprend rien du tout. Alors là, on suit l'oncle.
Ça, c'est le pied de la maison.
Ah, c'est l'entrée. C'est le seuil. Ça, c'est le seuil de la maison.
On entre par là.
Ah, là, il lève les bras, il fait la porte. Avec ses bras.
Ces pierres-là, on les cherchait de ce village là-bas. On les ramenait en utilisant les chameaux.
Ah, vous aviez des chameaux encore?
Ah, Djemel.
Oui, nous avions des chameaux. Juste à côté de moi, la maison de mon oncle. Ici, c'est la maison de mes voisins. Et là, juste à 10 mètres d'ici, nous avions aussi deux maisons qui nous appartenaient.
Quand on ouvrait la fenêtre, on voyait un paysage magnifique devant nous.
Le paysage est magnifique.
Sans les colonies, bien sûr.
Alors voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, là on est sur cette hauteur, sur ce village détruit. Personne ne pourrait savoir qu'ici il y a eu un village. Il n'y a plus aucune trace de ce village. Si on n'était pas avec l'oncle, personne ne saurait qu'ici il y a eu un village. Et de l'autre côté, sur la colline, qu'est-ce qu'on voit? On voit une colonie
avec des tours,
avec des châteaux d'eau, et toute une ligne. C'est toute une ligne d'implantation de colonies comme ça.
Juste derrière moi, il y a un cimetière. Nos ancêtres étaient là.
Le cimetière est toujours là?
Il existe toujours.
Là, ce qu'on voit là-bas, les pierres, ce sont en fait des tombeaux. Juste au sommet de cette place-là.
Donc,
ma mère, mes grands-parents, mes oncles, mes frères sont enterrés tous ici. Là, on voit une colline, peut-être un kilomètre loin d'ici. C'est depuis là-bas que les Israéliens nous bombardaient.
Est-ce que vous allez sur la tombe de vos parents de temps en temps?
Il y a deux mois, je suis venu ici. Je suis allé prier sur le tombeau de mes grands-parents, bien sûr. Là, je vais aller visiter la place.
Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il casse des pierres?
Là, il est en train de cuire des fruits.
Des fruits secs.
Hein? Qu'il a trouvé par terre.
Parce que, à côté de nous, il y a un arbre.
Des noix. Un noisier.
Ce paysage, vraiment, c'est un paysage à la Giono, quoi. C'est un paysage de pierrailles, c'est un paysage de soleil, c'est un paysage d'arbres secs, de dattiers, de figuiers, d'oliviers. Mais c'est rêche, c'est sec, c'est belle lumière au-dessus. Et il y a ces hélicoptères de combat qui sillonnent le ciel au-dessus de nous. Et l'oncle Abou Mahmoud est monté... sur la ligne d'horizon, là, il y a juste dans les herbes sèches, sur la ligne d'horizon, là où il y avait le cimetière, là où les siens sont enterrés, grand-père, grand-mère sont enterrés, et tous ceux de sa tribu sont enterrés là. Mais personne ne peut le savoir, personne ne peut le deviner que lui, puisque tout a disparu, tout a été rasé. C'est vraiment, on a fait du passé table rase ici. Et il fait sa prière, et vient se recueillir.
Jamais nos exils ne furent vains, jamais en vain nous n'y fûmes envoyés. Leur mort s'éteindront sans contrition. Aux vivants de pleurer, l'accalmie du vent, d'apprendre à ouvrir les fenêtres, de voir ce que le passé fait de leur présent et de pleurer doucement et doucement que l'adversaire n'entende ce qu'il y a en eux de poterie brisée. Martyr, vous aviez raison. La maison est plus belle que le chemin de la maison. En dépit de la trahison des fleurs, mais les fenêtres ne s'ouvre point sur le ciel du cœur et l'exil est l'exil, ici et là-bas. Jamais en vain, nous ne fûmes exilés et nos exils ne sont passés en vain. Et la terre se transmet comme la langue. Mahmoud Darwish.
Je venais en cachette en 1963, 1962. Personne ne me voyait.
Et si vous avez attrapé, qu'est-ce qui vous serait arrivé?
Je m'en foutais ce qu'il allait m'arriver. Je sais que c'était interdit, mais je venais quand même. Tous les habitants du village venaient
assister à des mariages ou faire des mariages sur cet endroit-là.
On dansait, on chantait.
Ah, Han.
Oui, c'était beau, on faisait le sort de danse communautaire. Je me souviens de tout moment où je vivais ici, tout moment. N'imaginez pas que nous avions des télés, des radios, donc on venait là les vieux pour venir s'asseoir, raconter des histoires, fumer quelques cigarettes.
Ça c'était la place du village.
Et là, on voit devant nous, juste après cet arbre-là, c'est-à-dire à 30 mètres d'ici, des puits d'eau.
L'eau, c'est important, hein?
Bien sûr, le mouton, à l'époque, avait besoin d'eau. Sans ça, tu ne peux pas vivre. Et les gens, à l'époque, avaient 2 à 3 puits chacun.
Il y a un parfum. Des jetés sans poterie.
C'est le pied utilisé pour garder l'eau fraîche.
C'est déjà de terre.
C'est mille fois mieux qu'un frigo.
Il y a plein de vieux débris d'obus.
Il y avait une maison qui appartenait à l'oncle Ibrahim. Ici, un autre ami Selim qui habitait là.
Et on trouve les éclats des bombes, du reste des bombes de 48 encore aujourd'hui.
Là aussi, juste en dessous de nous aussi, d'autres bombes, d'autres places où il y a des bombes aussi.
C'est un crochet d'une porte. Enfin voilà, on se balade dans les débris, les mémoires. Sur toute la ligne de crête, là, partout il y a des implantations.
And this new house is for the new immigrations. It will be in the future.
Et ces nouvelles maisons qui sont en train d'être construites, c'est pour les immigrants qui vont arriver encore dans le futur.
And something else, if you look to the settlement, it's not like the other people in the world.
Si vous regardez les implantations, vous pouvez voir que c'est pas comme les autres endroits dans le monde où habitent les gens.
The Israeli people, they don't have the feeling. It's belong to the house itself because usually the people build the house as they like.
Oui, parce que là, on a l'impression que les Israéliens ne construisent pas des maisons qui leur ressemblent, parce que normalement, on construit la maison de ses rêves, la maison qui lui plaît.
That's the government build the house and throw the people in these houses.
Là, c'est le gouvernement qui construit des appartements et qui met les gens dedans. Quoi.
C'est un peu comme des casernes.
Exactly. If we return back to the French settlements, colonialism in Algeria, it's not looks the same now because the developments and the technology, but it's the same idea in the content. They are living very close to each other and it's closed and there is a siege fence around.
Oui, c'est regarder si on compare par exemple aux colonies des Français en Algérie à l'époque, c'est pas pareil puisqu'il y a eu des changements de technologie depuis, mais c'est le même principe à la base. C'est-à-dire, on construit des maisons proches les uns des autres, refermées sur l'intérieur, en se coupant de l'extérieur.
Ouais. Est-ce que toi, tu vas dedans? Est-ce que toi, tu te balades dans ces colonies? Est-ce que tu y vas?
It's forbidden for me to be inside settlements.
C'est interdit. Ça m'est interdit d'aller dans l'intérieur des colonies.
It's forbidden for me to be inside Israel.
C'est interdit pour moi d'aller en Israël.
And it's legal for everyone coming from the world to be in the settlements, to be inside Israel, but for the Palestinian people, it's still forbidden.
Et pour quiconque vient de n'importe où dans le monde, ils peuvent aller en Israël, ils peuvent aller dans les colonies, mais pour les Palestiniens d'ici, ils n'ont pas le droit d'y aller.
Even it's forbidden for the Arab people from inside Israel to live inside the settlements.
C'est même interdit aux Arabes israéliens qui vivent donc en Israël de vivre et d'aller dans les colonies.
And some of the groups from new immigration, especially from Ethiopia, it's forbidden for them to live in such kind of settlements for high bourgeois inside the Israeli community.
Et c'est le cas aussi pour certains groupes d'immigrants comme les Éthiopiens qui sont arrivés récemment, à qui il est interdit d'aller vivre dans ces colonies.
Mais là, on est où, en Israël ou en Palestine ici?
According to the present situation, it's called Israel between two.
Oui.
But this is my land. This is Palestine. This is my land. I belong to this land.
Selon la situation actuelle, cet endroit est ce qu'on appelle entre guillemets
l'Israël. Mais pour moi, c'est ma terre, c'est là d'où je viens. C'est la terre à laquelle j'appartiens.
Donc aujourd'hui, c'est vrai, j'ai pris congé, mais sur mon propre compte.
Et où est-ce que vous travaillez? Vous travaillez là-bas, sur la colonie? Dans l'implantation qu'on voit
d'à côté? Oui, là-bas, dans cette colonie là-bas.
C'est-à-dire que vous travaillez pour les Israéliens?
Les Israéliens, mais je suis un peu d'Aïch, même.
Bien sûr, je vais vivre. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous faites là-bas comme travail?
Donc
il construit. Ah, vous construisez? Non, mais c'est extraordinaire.
Donc
je construis, je choisis les bons pierres qu'on met dans cet endroit-là, ou là-bas. Je décore les pierres.
Ça veut dire que vous êtes là-bas en train de travailler, en train de tailler les pierres pour la construction de la colonie. De temps en temps, vous pouvez regarder ici le village où vous étiez, où vous avez grandi, le village de votre famille, qui est détruit, sur lequel il n'y a plus rien.
Je regarde le village autant que je travaille.
Si ce n'est pas plus.
C'est terrible.
And for me, when I was in the school, sometimes in the holidays, I was working in settlements.
Et moi-même, quand j'étais à l'école, et parfois pendant les vacances, j'allais travailler dans les colonies.
And they told many times, I heard that the Palestinian workers telling the owner of the work, okay, we are building now, you think it's for you? We are coming back eventually to live in these houses.
Et j'entendais très souvent les travailleurs palestiniens qui disaient aux employeurs, ok, on construit vos maisons, c'est d'accord, mais un jour on va revenir y habiter.
And for this reason, this is the symbol for the keys. That's our parents, they keep the keys of the houses.
Et c'est ça le symbole très fort, l'image très forte du symbole des clés de nos parents qui gardent les clés des maisons qu'ils n'ont plus.
And my family, my parents, now when they died, they left the keys for me.
Mes parents qui sont morts maintenant m'ont légué les clés qu'ils avaient gardées de la maison.
C'est la terre promise. Ici, on est sur ta terre promise.
This is my land, it's not a promised land. This is my land.
C'est ma terre, c'est pas la terre promise.
Est-ce que l'oncle a donné les clés à quelqu'un? Est-ce que vous avez gardé les clés de la maison?
Je ne sais pas ce qu'il va l'apprendre après. J'ai écrit un article à propos de mon oncle.
I asked my uncle why you keep this key.
Et je lui ai demandé, j'ai demandé à mon oncle pourquoi tu gardes cette clé.
He answered me that this key it's mean for me. This is the way to return back to my homeland.
Et il m'a dit, c'est pour moi le moyen de retourner sur ma terre natale.
And I asked him, soon maybe you'll die.
Et je lui ai demandé, mais peut-être qu'un jour tu vas mourir.
The key?
Où tu vas laisser la clé?
He said I will leave the key in the house.
Il a dit je laisserai la clé dans la maison.
And I will leave it for my kids.
Je la laisserai pour mes enfants.
And they are free. They can decide. They want to take care for this key or they want to lose it.
Ce sera à eux de décider. Ils auront le choix. Ou bien ils prennent la clé, ils prennent le symbole de la clé, ou bien ils la laissent.
And my uncle he said that's time. I lost one kid killed by the Israeli army during the Intifada.
Et c'est là où il m'a dit, à cette époque-là, j'ai perdu un fils tué par l'armée israélienne au cours de l'Intifada.
And I am very worried for my kids and for my grandsons in the future, and maybe this key it will cause them more sacrifice and more victims.
Et je suis très inquiet pour mes enfants, mes petits-enfants, parce que peut-être qu'un jour ces clés provoqueront pour eux encore de la souffrance et des sacrifices.
Comment s'appelait votre fils qui est mort?
Ali.
Donc vous savez, à l'époque, quand il y avait des affrontements avec l'armée israélienne, donc il y a eu un affrontement et ça s'est passé comme ça. On a tiré dessus.
Il était armé?
Non, il n'avait pas d'arme.
Et il avait quel âge?
Il avait 19 ans à l'époque.
Laissez donc un sursis à la terre, qu'elle dise la vérité, toute la vérité, quant à vous, quant à nous, quant à nous, quant à vous. Il y a des morts qui sommeillent dans des chambres que vous bâtirez, des morts qui visitent leur passé dans les lieux que vous démolissez, des morts qui passent sur les ponts que vous construirez, et il y a des morts qui éclairent la nuit des papillons qui arrivent à l'aube pour prendre le thé avec vous, calmes, tels que vos fusils les abandonnèrent. Laissez donc, ô invités du lieu, quelques sièges libres pour les hôtes, qu'ils vous donnent lecture des conditions de la paix avec les défunts.
Ça c'est quoi? Parce que là maintenant on est rentré au camp, on est rentré à la maison, on a passé la ligne, on a passé le checkpoint, donc l'oncle a remis son coffier, et là maintenant il veut nous montrer des clés. Ça c'est les clés de la maison.
C'est la
clé de l'ancienne maison dans le village Djarash.
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 Ah, ouais, les deux clés.
Il y a les clés, mais il n'y a plus la maison.
La maison restait là-bas.
Et pourquoi les garder?
Je le garde
pour souvenir, pour moi, tout seul. For the people, it's a symbol. That's me, and to keep the keys, that's the people. They are living here.
C'est un symbole très fort pour les gens, pour dire qu'on garde en effet, c'est qu'ils n'habitent ici que provisoirement.
And the people, they are waiting.
Ils attendent.
They are waiting to finish this time and here, this camp, and to return back to this village.
Ils attendent d'avoir fini leur temps dans ce camp ici, puis retourner dans leur village.
Voilà, c'était la clé de l'histoire, en somme. Technique aujourd'hui, Alain Arnstam et M. Grand de Saad. C'est bien ça? J'ai bien prononcé? Quel beau nom, alors. Quel beau nom. Yann Chouquet, c'était la musique. Christophe Imbert, c'est le répondeur et le numéro du répondeur. C'est le 01 56 40 37 37. Pascal Le Pascariello. Qu'est-ce qu'elle vous conseille, Pascal Le Pascariello? D'aller samedi 13 novembre à Paris, à la Bastille, à 14h, manifester contre le mur en Palestine et en soutien au peuple palestinien avec des associations comme Union Juive pour la Paix, Coordination Palestine, etc. Et puis, évidemment, les états généraux des collectivités publiques contre la GCS à Bobigny, ce samedi et ce dimanche qui viennent. Ai-je bien dit que c'est Antoine Chaou qui a réalisé cette émission modeste et géniale? On se retrouve lundi à 17h pour Là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous après la réclame. Ça va durer exactement une minute. Vous retrouverez Frédéric Bonneau et son charivari. Salut!